Raison gardée, une émission proposée par la Libre Pensée de Meurthe-et-Moselle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Raison gardée, l'émission proposée par la Fédération des Libres Penseurs de Meurthe-et-Moselle. Je souris parce que mon camarade Charles qui est là aujourd'hui, bonjour Charles.
Bonjour Sylvie.
Est déjà en train d'abîmer tous mes ouvrages. Veux-tu laisser mes petites affaires tranquilles, oh, je t'en prie. Et aujourd'hui nous accueillons Virginie, bonjour Virginie.
Bonjour.
Alors pourquoi accueillons-nous Virginie? Alors je vais te présenter tes multiples casquettes. On va vite comprendre le sujet du jour. Vous savez qu'à la Libre Pensée, nous sommes toujours très soucieux de tout ce qui se passe à l'école. Nous sommes des ardents défenseurs de l'école publique. Nous estimons que l'argent public doit aller à l'école publique et que c'est vraiment une institution fondamentale pour la société. Et nous sommes aussi très, très soucieux de voir la question de l'inclusion à l'école, des personnes en difficulté, correctement gérées, avec des personnes dont le travail doit être reconnu. Et Virginie, parmi tes nombreuses casquettes, alors tu es conseillère municipale, tu es ici au titre du syndicat que tu représentes.
Mmh.
Une première question, puisqu'au moment où nous enregistrons, on va dire que l'actualité est brûlante, ça va pas trop fatiguer.
Un peu usé, mais on tient. On pense que c'est compliqué, mais finalement on tient, parce que je pense que c'est une raison importante et qu'il ne faut pas lâcher. Si on lâche là-dessus, on perdra tout et on se bat pour un acquis social et il est hors de question de reculer.
Alors on aura l'occasion de parler justement de la situation des personnes que tu représentes aujourd'hui, qui sont les AESH. Et peut-être que tu peux nous redire, genre, quelle est ta fonction exactement dans ton syndicat, la CGT?
Alors pour la CGT, je suis donc au niveau départemental, donc la représentante des accompagnants d'élèves en situation de handicap au niveau syndical. Et je suis également co-animatrice du pôle national des AESH pour la CGT Éducation.
D'accord, donc ça fait du travail.
Ça fait du travail. Ça fait du travail, mais c'est passionnant. Et, justement, c'est un travail pour une cause qui touche tout le monde. Parce que, voilà, autour de nous, on a tous quelqu'un qui est touché par le handicap, de près ou de loin. Et on ne peut être que sensibiliser justement à l'avenir de ces élèves et les inclure parfaitement au sein de nos établissements scolaires.
On peut-être rappeler pour nos auditrices, nos auditeurs, ce que signifie AESH, donc c'est assistant...
Non, accompagnant d'élèves en situation de handicap en milieu scolaire.
Et avant, c'était pour ceux qui ont quitté le système scolaire il y a quelques temps, les AVS.
Les AVS.
Voilà, mais il s'agit bien de la même fonction. Ce sont des personnes qui interviennent à tous les niveaux de l'école, dès la maternelle.
Absolument. Donc là, actuellement, au dernier comptage, on est 132 000 en France. Donc 132 000 AESH, il me semble, sauf erreur, en 2017, on était un peu moins de 80 000. Donc c'est pour montrer l'évolution entre 2017 et aujourd'hui 2023, pour par contre une proportion de plus de 430 000 élèves en situation de handicap aujourd'hui scolarisés, dont en effet beaucoup bénéficient d'une aide humaine, qu'on appelle aujourd'hui donc AESH. Et l'AESH intervient dès l'entrée à l'école, donc en effet de la première année en maternelle, mais peut également aller jusqu'en lycée, voire en prépa. Donc c'est un échantillon large des casquettes que l'AESH peut exercer et peut passer d'un niveau à un autre dans un délai très court et s'adapter également à n'importe quel handicap en fonction de la situation qu'elle a en face d'elle.
D'accord. Donc il n'y en a pas dans les universités?
Alors dans l'université, là on passe sur un autre domaine et un autre mode de gestion. Il peut y avoir en effet des accompagnants d'élèves, d'étudiants en situation de handicap, mais on ne fonctionne plus sur le réseau éducation nationale.
D'accord.
On parle sur le niveau université. Et là, en effet, il y a une rupture et il y a, en tout cas sur le sigle AESH, il n'y a pas d'AESH au-delà, on va dire, du lycée.
D'accord. Si on fait un petit calcul, un ratio un peu étonnant, beaucoup de besoins, mais y a-t-il suffisamment d'AESH pour accompagner correctement toutes ces demandes?
Alors on veut nous faire croire que oui, on veut nous faire croire même qu'on est beaucoup trop nombreuses. et nombreux, puisqu'il ne faut pas oublier que si on est à 98% une profession féminisée, on a aussi un pourcentage d'hommes. Hein,
98%.
98%, donc, mais on a également 2% d'hommes et des collègues qui, voilà, qui interviennent auprès des élèves aux situations de handicap aussi bien que nous. Hein, voilà, c'est, même si on est très féminisé, on a quand même des hommes et certaines situations justement l'exigent. Parce que voilà, on accompagne en effet des élèves en situation de handicap qui peuvent avoir des troubles importants pour lesquels on n'arrête pas de le répéter et on le réclame, le manque de formation fait défaut. Et donc c'est très compliqué. Et aujourd'hui, on a un nombre d'élèves qui est de plus en plus croissant, un nombre d'élèves à accompagner qui ne s'arrête pas en cours de milieu d'année scolaire. Donc c'est-à-dire qu'une AESH peut très bien commencer avec un ou deux élèves à la rentrée de septembre et finir avec quatre ou cinq élèves à la fin de l'année parce que les notifications de la MDPH continuent d'arriver et donc d'ouvrir des droits à des élèves qui ont droit à un accompagnement humain en classe. Donc la situation devient un peu compliquée puisque on va dire que la moyenne d'heure d'accompagnement, c'est 24 heures, le minimum des contrats des AESH. Et donc 24 heures, quand vous avez deux élèves, c'est pas compliqué, on divise par deux, ça fait 12. Mais quand il faut diviser par 6, là, ça devient un petit peu compliqué. Et donc, quand on a un élève qui ne se retrouve plus qu'avec, par exemple, 4 heures d'accompagnement par semaine, on ne peut pas dire qu'on fait de la qualité, quoi. On est une variable d'ajustement au niveau gouvernemental, mais on ne fait plus de la qualité. On ne peut pas faire correctement un travail d'accompagnement d'élèves en situation de handicap 4 heures par semaine. C'est pas équitable, c'est pas juste, et en plus, ça ne répond absolument pas aux besoins de ces élèves.
Ni à ce que les parents espèrent, attendent. C'est-à-dire, je crois deviner sans doute des tensions quand les parents obtiennent, après avoir construit leur dossier, qui sont des dossiers difficiles à monter, ça prend du temps de construire.
C'est une lourdeur. Oui. Aujourd'hui, au sein de la CGT, on l'a fait remonter également, et c'est quelque chose qu'on dénonce, c'est cette lourdeur administrative qui n'a pas changé depuis la loi de 2005. C'est-à-dire que c'est toujours aussi long, c'est toujours aussi fastidieux. C'est quelque chose qui est vraiment très décourageant pour des familles qui sont déjà dans la difficulté au quotidien de devoir justement avoir en face d'eux des organismes, des sociétés, trouver des médecins qui s'adaptent aux besoins de leur enfant sans en plus rajouter cette lourdeur administrative pour pouvoir avoir enfin le sésame qu'est l'AESH, parce qu'on le voit un petit peu comme ça aujourd'hui. Et c'est vraiment très, très compliqué. Et en effet, on le constate, c'est que là, on est vraiment dans une politique de rentabilité. Et quand on a de plus en plus de notifications, ce qu'on appelle mutualisées, donc il y a deux types de notifications pour ces élèves quand ils ont droit à une aide humaine. C'est soit une aide individualisée, où là, l'élève a un nombre d'heures qui doit être respecté pour son accompagnement en classe. Et d'autre part, un accompagnement qui est dit mutualisé, où là, il n'y a pas le nombre d'heures. Et malheureusement, quand il n'y a pas de nombre d'heures, on a un élève qui peut très bien avoir 12 heures en début d'année et se retrouver avec 4 heures, voire 3 heures seulement d'accompagnement par semaine en fin d'année, parce que l'AESH va être surmutualisée également et donc intervenir avec beaucoup plus d'autres élèves. Et à ce moment-là, c'est très compliqué de s'adapter. Notre rôle premier, c'est en effet de s'adapter, d'être flexible. Sauf que là, c'est humainement très compliqué et c'est très compliqué pour les parents, parce qu'en plus on voit des abus qui arrivent, c'est-à-dire que des élèves dont les parents se sont battus pour avoir une notification individuelle et un vrai nombre d'heures d'accompagnement, parce qu'il y a un réel besoin qui a été reconnu, perdre cet accompagnement, parce que du jour au lendemain, l'AESH va être quand même surmutualisée ailleurs, parce qu'il y a des besoins, et donc on ne respecte plus non plus les notifications individuelles, et ça crée en effet des tensions avec des parents qui ne comprennent pas.
Et en plus, si on pense à l'AESH, si on te comprend bien, l'AESH peut commencer un accompagnement avec un élève qui a un type de handicap, et puis de voir, alors je pense quand on est au collège ou au lycée par exemple, voir un autre élève dans une autre classe, mais avec aussi un autre type de handicap. C'est-à-dire que l'AESH, c'est quelqu'un qui doit constamment s'adapter au handicap. Et alors on reviendra sur le statut même de l'AESH, mais tu soulevais une question tout à l'heure, c'est la question de la formation. Comment, quand on est AESH, est-on formé à cette multiplicité des handicaps?
Alors on l'est pas.
Voilà. Alors c'est, j'avoue, je connaissais un peu la réponse.
C'est malheureusement ce qui est, c'est le côté ubuesque de la chose, hein, c'est qu'on demande en effet à une AESH de pouvoir s'adapter au pied levé à n'importe quel handicap. Donc elle va passer d'un trouble du spectre autistique à un trouble du comportement, à un 10, un multi-10. Et à ce moment-là, quand des collègues arrivent, déjà il n'y a pas de formation avant la prise de poste. Donc ça veut dire qu'elle est plongée dans le grand bain dès son premier jour, et en effet, elle va passer en fonction, parce qu'on est quand même géré par un système dont il faut quand même dire le nom et que nous on dénonce depuis qu'il a été mis en place, qui s'appelle les PIAL. Donc c'est ça également qui génère de la maltraitance, autant au niveau des AESH, au niveau de la gestion des AESH, mais également de la maltraitance institutionnelle vis-à-vis de ses élèves en situation de handicap. Et cette façon de gérer les choses on pensait que la formation allait arriver, mais elle n'est pas arrivée. Il n'y a toujours pas de formation à prise de poste. C'est vraiment une lancée dans le grand bain. La formation intervient des mois après, voire des années après. Et à ce moment-là, elle n'est plus vraiment très... Mmh. Et encore, on n'appelle pas ça formation, hein, puisque il n'y a pas de diplôme. Hein, c'est pas une formation qualifiante, c'est 60 heures obligatoires de bourrage de crâne. Parce que du coup, c'est 60 heures d'information intense, et vous en sortez de là avec un mal de tête, et au final, c'est débrouillez-vous sur le terrain, parce qu'il n'y a rien de concret, il n'y a pas de mise en situation. Et c'est ça qui est très très difficile à vivre, parce qu'on a quand même aujourd'hui, en effet, des situations de handicap à prendre en charge à l'école. Pour lesquels nous ne nous sentons absolument pas armés pour pouvoir répondre. Et on se retrouve en souffrance également, l'élève se retrouve en souffrance, et il n'y a personne pour répondre en face. Donc c'est vraiment très très compliqué.
Le fait que justement les AESH soient obligés de fait de se former en agissant, de se former en faisant leur métier, est-ce qu'au moins cette expérience est reconnue, c'est-à-dire que l'AESH qui par exemple a suivi pendant l'année deux élèves, l'un avec un trouble plutôt autistique et l'autre avec des difficultés plutôt dans la dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, enfin tout ce qu'on appelle les 10, est-ce que cette expérience-là est reconnue, c'est-à-dire que par exemple quand vous êtes affecté auprès d'un autre élève ou dans un autre établissement, on prend en compte la formation que vous avez acquise, enfin l'expérience plutôt que vous avez acquise et le savoir acquis.
Alors, on va dire que sur le papier, oui. Mm-hmm. Dans la réalité, non. Parce que c'est impossible. C'est vraiment devenu une fourmilière, hein, donc c'est très compliqué. Mmh. Alors, je vais prendre un exemple très concret pour montrer que c'est très compliqué, justement, à un moment donné, de tenir compte de l'AESH en tant que personne et non pas en tant qu'objet ou outil, si je puis dire. Mmh. C'est que là, on parle de la prime REP. En effet, on a certaines collègues donc, qui travaillent dans des établissements donc, relevant de la REP et de la REP+, donc les réseaux d'éducation prioritaire, et qui, donc là, le gouvernement... décidé de nous faire un petit cadeau et de nous autoriser à avoir accès à cette prime, eh ben on ne l'a toujours pas touché parce qu'ils sont incapables de savoir où sont les AESH qui y ont droit. Donc voilà, donc comment tenir compte d'une AESH en effet qui est spécialisée, on va dire plus spécialisée sur les troubles autistiques ou sur en effet un trouble du comportement ou voilà qui a des compétences et des affinités sur tel ou tel handicap. Alors hormis, on va dire, les acteurs les plus proches de vous, qui vont être aujourd'hui ce qu'on appelle les AESH référentes ou les cohordopiales, et encore quand on sait qui ils sont, parce que ça aussi c'est très compliqué d'aller identifier qui est acteur, personne ne sait vraiment qui vous accompagnez et ce que vous faites avec les élèves. Quand on dit que les AESH sont livrées à elles-mêmes, c'est un peu ça, quoi. Donc nous, on fait notre boulot, on a notre conscience professionnelle et on se bat pour avoir une reconnaissance, alors que même au niveau... on va dire, d'une hiérarchie juste au-dessus. Hein. On ne demande même pas d'aller très très loin. On ne sait même pas qui vous êtes.
Donc ce n'est même pas de la malignité qui ferait qu'une AESH peut passer du collège au lycée, du suivi d'un type de handicap à un autre. C'est vraiment parce que l'institution n'a pas construit même un système correct pour savoir ce qui arrive à son personnel.
Absolument pas.
Incroyable.
Alors, pour donner encore un exemple très concret, hein, c'est qu'on a on a quand même une proportion nous-mêmes de collègues qui ont des reconnaissances RQTH, donc qui sont elles-mêmes travailleuses en situation de handicap et donc qui ont elles-mêmes des préconisations par rapport à leur métier, la manière dont elles doivent travailler avec certaines prescriptions. Dont certaines, par exemple, collègues, c'est marqué, éviter de les mettre donc en maternelle parce qu'elles ont un problème de dos très particulier qui entraîne quand même, je le rappelle, une reconnaissance de travailleuse handicapée. Donc c'est pas le petit bobo passager, le petit lumbago parce qu'on a fait un faux mouvement. Non, c'est des collègues qui ont vraiment un dossier MDPH qui se sont elles-mêmes battues pour l'avoir, qui ont fait le même parcours du combattant que les parents de nos élèves. Et ben même ça, ça n'est pas reconnu. Quand une collègue, à un moment donné, voit une affectation qui ne correspond pas à sa reconnaissance RQTH, va essayer de plaider sa cause en disant ben voilà, je suis désolée, mais là, ça ne va pas être possible. Je ne vais pas pouvoir parce que même si j'essaye, je risque de me faire du mal. Et en gros, on sait très bien ce qui se passe. La collègue va être en arrêt maladie parce qu'elle va vraiment se faire mal. Donc, on perd une collègue qui n'est pas remplacée. Enfin, ça fait boule de neige et c'est pas adéquat. Et ben même ça, la collègue seule n'arrivera pas à faire reconnaître ça. Et il va falloir qu'elle contacte soit une organisation syndicale ou même, à un moment donné, on a quand même des collègues qui vont jusqu'au burn-out, parce qu'à force de tirer sur la corde, et on en est obligé. Aujourd'hui, on a une proportion de collègues qui font de plus en plus appel aux services de médecine de prévention du rectorat parce qu'elles sont à bout. Et avec une augmentation, là, on le voit arriver, des collègues qui sont très compétentes. On ne va pas remettre du tout en cause leurs compétences et leurs valeurs professionnelles, mais et ben là, on voit bien qu'on a une proportion de dossiers, ce qu'on appelle des reconnaissances de travailleuses en inaptitude. Donc, on a des collègues qui sont licenciés actuellement parce qu'on les juge inaptes à leur fonction, juste parce que, pour beaucoup, on ne respecte pas, pour elles-mêmes, des reconnaissances de travailleuses handicapées.
Alors, tu disais elles sont licenciées. Donc, les AVSH sont recrutés selon quel dispositif ? Il s'agit d'un entretien ? Les personnes postulent
Alors, normalement, il y a un entretien. Voilà, donc normalement, il y a un entretien. Les AESH postulent donc, auprès soit du rectorat, mais la plupart du temps, c'est auprès des DESDEN, DESDEN ou IEN. Et à ce moment-là, en effet, elles sont reçues, elles ont un entretien.
Donc, sont les directions départementales d'éducation nationale.
C'est ça. Et l'inspecteur de l'IEN, donc c'est l'inspection de l'éducation nationale. Donc qui est plus pour le primaire, pour l'IEN, et DESDEN, donc qui est l'employeur général. Sachant que pour les AESH, c'est pareil, il y a une particularité, c'est qu'on a deux types d'employeurs. Donc on a soit la DESDEN, et comme la DESDEN n'a jamais les budgets pour pouvoir recruter le personnel en nombre, les AESH sont sous-traités. Donc elles sont également embauchées par des lycées employeurs. Donc chez nous, par exemple, en Meurthe-et-Moselle, on a le lycée Levasseur, donc qui est à Dombasle, qui gère les AESH du 54, du 55 et du 88. Voilà, donc c'est un lycée employeur. Voilà, il y a de la sous-traitance également. Voilà, faut le savoir. Au sein de l'éducation nationale.
C'est vraiment le pire employeur qui soit.
Voilà, c'est ça. Donc il y a même de. Alors sachant qu'en effet le salaire, juste le rappeler, c'est que les contrats moyens donc sont en effet de 24 heures, donc recrutés soit par les DESDEN, soit par les lycées employeurs, pour un salaire moyen de 850 euros net par mois.
C'est vraiment...
Non, ce n'est pas une plaisanterie. Le salaire moyen de l'AESH, c'est 24 heures donc de travail effectif en côte à côte élève sur 36 semaines, plus 5 semaines, ce qu'on appelle d'heures d'activité connexes qui leur permettent justement d'assister à des réunions de préparation, puisque elles font, on fait partie, puisque je vais m'inclure quand même, j'en fais partie aussi, des équipes éducatives et donc de participer à toutes les réunions, les ESS, ce qu'on appelle les équipes de suivi par rapport à leurs élèves qu'elles peuvent accompagner.
Donc ce sont des réunions avec les parents, les professeurs, l'administration de l'établissement scolaire, les professionnels, et donc de fait, vous êtes là aussi, et donc ce sont des réunions qui durent facilement une heure pour un élève, donc ça prend du temps, puis vous assistez aussi au conseil de classe, et puis il y a les dialogues aussi avec les équipes
les enseignantes.
Voilà,
bien sûr. Dans le second degré, on dialogue beaucoup, dans le premier degré aussi, ça nécessite énormément d'échanges, voilà, et puis d'échanges de pratiques, et de remise en cause perpétuelle, voilà, parce qu'on n'a pas d'acquis... Ce qui est valable, ce qui peut fonctionner par exemple en matière d'accompagnement avec un élève ne l'est pas forcément pour un autre, et quand on passe d'un élève à un autre et qu'on en a une multitude, ça demande systématiquement de se remettre en cause sur notre travail.
Et donc on disait 850 euros net par mois pour toutes ces heures, c'est vraiment un scandale.
Ah ben c'est le plus gros des scandales, c'est bien celui-là. Donc ça fait des années que même au niveau de la CGT Éducation, mais également d'autres organisations syndicales, on réclame la reconnaissance d'un temps plein pour 24 heures. Voilà, donc c'est-à-dire une reconnaissance que 24 heures soit un temps plein, de manière à éviter la précarité.
D'accord. Et est-ce qu'il y a un espoir de voir une revalorisation salariale conséquente ?
Alors, le 12 avril, les organisations syndicales ont été conviées par le ministère pour discuter justement de la gestion des AESH, et au menu de cette réunion était prévu, dans l'ordre, la fameuse CDIsation au bout de 3 ans, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les AESH sont CDIsés qu'au bout de 6 ans. Il faut 6 ans de contrat de droit public. Donc leurs années qu'elles ont pu faire en droit privé quand elles étaient AVS ne rentrent pas en ligne de compte.
D'accord.
Donc voilà. Donc on
a des personnes qui avaient une expérience d'AVS.
Oui.
Parce que c'est un contrat de droit privé, n'ont pas pu tirer profit de ce passé-là pour faire valoir des droits et être CDIsés plus tôt.
On a des collègues qui ont été AVS en droit privé pendant plus de 6 ans et qui ont dû refaire 6 ans en droit public pour pouvoir bénéficier de leur CDI. C'est-à-dire que même les 6 ans qu'elles ont faites en tant qu'AVS, donc c'est exactement le même métier, on passe juste de droit privé à droit public, n'a pas été prise en compte donc, par l'Éducation nationale dans la prise en compte de leur ancienneté. Et donc, ces collègues sont aujourd'hui, elles ont attendu 12 ans pour enfin avoir un CDI, sachant que c'est un CDI qui ne... Enfin, c'est pas un sésame, parce qu'il ne change strictement rien. On ne gagne pas plus en CDI que ce qu'on gagne en CDD. Donc, c'est pas non plus une... C'est pas le top, quoi. Donc là, le 12 avril, il a été question de rapporter un CDI donc au bout de 3 ans et non pas 6. Ça ne change strictement rien. Enfin, voilà, pour nous, c'est pas une avancée. Hein. Ça change rien au statut précaire qu'on garde. Et des petites primettes, parce qu'on aime bien nous jeter des miettes quand même par-ci, par-là. Mais c'est pareil, des primes qui, pour la plupart, ne rentrent pas non plus dans le calcul justement du départ en retraite, donc qui vont pas nous arranger. Et toujours ce refus catégorique de nous reconnaître un statut de la catégorie B pour pouvoir justement sortir de cette précarité. Le refus toujours de reconnaître qu'un 24 heures d'accompagnement soit l'équivalent d'un temps plein, parce que après 24 heures, mine de rien, on est sur les rotules. Ça demande quand même énormément d'énergie d'accompagner ces élèves en situation de handicap au quotidien. Et le gouvernement est en train de nous préparer ce qu'il a déjà plus ou moins préparé pour les enseignants, donc l'histoire du pacte. Donc si vous voulez gagner plus, c'est travailler plus. Et donc c'est ce qu'il prépare pour les AESH, pour soi-disant les sortir de la précarité. Ça va être de trouver des missions annexes qui n'ont rien à voir avec leur mission d'accompagnante d'élèves en situation de handicap au sein des établissements scolaires. Et le gouvernement prévoit une fois de plus de nous sous-traiter, mais cette fois-ci à la territoriale.
D'accord. Voilà. On continue. Oui, parce que on imagine déjà le discours qui va être tenu et qui commence déjà à l'être, c'est-à-dire que on vend dans l'opinion publique l'idée justement de ce pacte, c'est-à-dire qu'on redéfinit des missions, etc., etc. En fait, il s'agit toujours de nous en demander plus et de vous en demander plus pour pouvoir prétendre à effectivement une petite augmentation, mais souvent des primes. Effectivement, ce n'est pas l'augmentation salariale.
C'est pas une vraie. C'est pas ce qui va permettre aux AESH de vivre correctement au quotidien. C'est pas ça non plus qui fait une reconnaissance de la valeur professionnelle qu'on apporte au quotidien. C'est un camouflet de plein de choses, et on le voit, alors on le voit chez les AESH, on le voit chez les enseignants, mais on le voit un peu partout, cette polyvalence qui nous est demandée, voilà, de toujours travailler plus pour gagner plus. On le voit avec nos retraites, travailler 2 ans de plus pour pas gagner plus en même temps, donc ça va pas nous changer grand chose. Mais ça, en tout cas, en ce qui concerne les AESH pour la retraite, en effet, c'est un scandale, parce que je ne vois pas une AESH travailler jusqu'à 64 ans. Je vais prendre un exemple également. Imaginez une AESH qui a un élève en situation de handicap moteur, en fauteuil, avec nos fameux établissements qui ne sont toujours pas adaptés à l'accueil d'élèves en fauteuil, dont un collègue, j'ai eu encore un coup de téléphone la semaine dernière, qui, lui, son rôle pendant des années a été d'être ascenseur humain.
D'accord, donc chargé de porter l'élève, son matériel.
Donc en tant qu'AESH, lui, sa fonction, il a été recruté pour remplacer l'ascenseur qui n'a jamais été mis au sein de l'établissement scolaire. Voilà.
Et puis même très concrètement, je vois le cas, c'est accompagner, c'est un monsieur à VSH qui doit accompagner un élève handicapé, donc l'accompagner de manière très intime, aux toilettes, etc.
Tout à fait.
Donc effectivement, c'est physique. Quoi. Et je connais aussi, on connaît tous d'autres cas, je pense à une amie qui est à VSH dans le primaire, avec des élèves qui peuvent être physiquement très très difficiles à contenir.
Et on a de plus en plus... Alors... On va pas le nier et on va pas faire l'autruche par rapport à ça. Mmh. En effet, on a des situations de violence qui arrivent de plus en plus parce qu'en effet, il faut, comme vous le disiez, contenir. Sauf qu'on n'a pas appris les gestes pour pouvoir la gestion de la crise. On appelle ça des situations de crise. Sauf que la ESH est absolument pas formée et c'est elle qui se fait taper sur les doigts justement quand il y a une crise et qu'elle n'a pas su gérer. Mais on a des élèves, donc là quand c'est encore dans le primaire c'est une chose, mais imaginez avec un élève qui est dans le secondaire ou même au collège. Et que vous avez en face de vous donc un jeune homme, un jeune homme qui fait déjà deux têtes de plus que vous et qui a un trouble du comportement manifeste et qui est en pleine crise et qui jette le mobilier scolaire à la tête de tous ceux qui passent devant lui. Comment fait la ESH à un moment donné pour pouvoir intervenir? Donc on a des collègues qui prennent des coups. Voilà, la seule chose qu'on est capable de nous le dire en face, c'est ça fait partie des risques du métier. Pour 850 euros par mois.
Voilà. Donc là, on trouve vraiment et le problème de la formation et le problème de la reconnaissance. Et la reconnaissance, elle doit être salariale. Il est bien beau de dire qu'il y a des métiers de première ligne, des métiers du soin, etc. Et puis on peut souligner aussi c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire 98% de femmes. On est encore aussi dans ce cas de figure de métiers très féminisés et ce sont les femmes qui prennent ce genre de métiers, qui sont mal payées et qui vont se retrouver dans des situations précaires tout au long de leur vie.
Et pendant la retraite, jusqu'à la fin. Après, le mot magique, c'est ce qu'on disait juste avant le début de cette émission, c'est le mot moyen. Le mot moyen. On n'a pas les moyens. Encore aujourd'hui, on est encore à faire du bricolage, à tordre les choses dans tous les sens, mais on n'apporte toujours pas de vrais moyens, ni financiers, ni humain, ni en matériel, parce que souvent, par exemple, il suffirait que chaque établissement scolaire ait également ce qu'on appelle des salles de décompensation. Pour certains de nos élèves, ce sont des salles qui permettent justement d'aller faire une pause, parce qu'ils en ont besoin, et on respecte également leur rythme, mais ça n'existe quasiment nulle part. C'est très très rare, avec du mobilier spécialisé qui permet à l'élève de se détendre, parce que il faut arrêter de penser que ces élèves vont s'adapter à l'éducation nationale. C'est l'éducation nationale qui doit s'adapter à eux. Donc c'est également une manière de faire, une manière d'enseigner, une manière de prise en compte qui est complètement différente de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et il faut arrêter de vouloir faire rentrer ces élèves dans des moules. C'est le moule qui doit s'adapter à eux et pas l'inverse.
Oui, parce qu'on s'en tirera à bon compte à imaginer qu'il suffit de placer un adulte à côté de chaque élève pour pouvoir l'inclure et se dire ensuite que tout a été fait. Il y a effectivement des élèves qui ne peuvent pas supporter toute la journée d'être dans un groupe classe, enfermé dans un espace en plus qui peut être réduit, vraiment très réduit, voilà, qui parfois leur est insupportable. Je pense aussi aux élèves qui ont des traitements et le traitement agit sur la journée, mais commence à être moins efficace en fin de journée. Il faut obligatoirement que l'après-midi, les choses soient repensées pour que l'élève puisse effectivement retrouver du calme, sortir, faire une pause, comme tu le disais. Et effectivement, moi, je ne connais pas un établissement avec ces salles de compensation.
Non. Alors, il y en a quelques-uns, mais ils sont très, très peu, même sur notre département. Et oui, par rapport à ce que tu disais, sur le traitement, c'est pareil. Alors, en tant qu'AESH, nous, on va savoir si l'élève il a pris son traitement très rapidement quand il arrive le matin, parce que il arrive parfois qu'il ait oublié de le prendre. Et là, on sait que la journée va être longue, va être compliquée, autant pour lui que pour nous, parce qu'il va être justement dans une incompréhension du monde qui l'entoure et en grande souffrance aussi. Et nous, on va devoir gérer ça. Et émotionnellement, ça nous vide. Enfin voilà, c'est quelque chose qui... on est des êtres humains, on n'est pas des machines. Et donc, à un moment donné, il est très très compliqué pour nous de sortir de journées aussi intenses et de passer à notre vie de famille, reprendre un cycle normal. La coupure est très très compliquée aussi, oui.
Merci, merci beaucoup Virginie pour tous ces éclairages sur ce métier d'AESH que nous côtoyons tous en fait hein, dans notre quotidien. Merci pour toutes, toutes ces données, tout cet éclairage aussi très concret sur la situation. Je vous invite à réécouter, à podcaster cette émission, à réécouter aussi celle que nous avions faite sur les contractuels de manière plus générale avec une collègue du SNES. Et je vous dis à très bientôt dans Raison Gardée. Bonne journée à vous.
Bonne journée, merci.